Bonjour. Écoutez, c'est un immense privilège d'être à Toulouse aujourd'hui et merci à Michel et à Loïs de m'avoir accueilli hier soir. C'était super sympa. Alors après le séminaire d'hier, on est rentré chez eux. Ils nous ont fait un repas, un banquet. C'était bon. Hein? Et on a parlé, je crois, on a calculé 8 heures. 8 heures environ, entre 6 et 8 heures d'affilée. Alors j'ai l'impression qu'on parle assez bien, d'accord, c'est sympa, et super de vraiment faire connaissance avec vous, parce que, comme, bon, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, parce qu'il l'a déjà tout dit, mais je répète. Donc, Philippe et mon fils John William étaient à l'université en Californie ensemble, à Marshall's College. Merci. Et donc, ils étaient en fait dans la même chambre. Alors, c'était bien pour eux, parce qu'ils pouvaient tantôt parler français, tantôt parler anglais. Et alors, du coup, ben voilà, on a fait connaissance. Et même moi, j'ai passé, il y a quelques années en arrière, 6 mois là-bas. Et donc, Philippe m'a demandé, parce que je ne connaissais pas bien, il m'a dit, est-ce qu'on pourrait se voir une fois par semaine et tu pourrais un petit peu m'aider dans ma foi? J'ai trouvé sympa. Alors, on a fait ça pendant ces quelques mois que j'étais là-bas. Tu savais ça, vous saviez? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et ben voilà, alors je vous en apprends les choses. Hein. Maintenant, je sais tout sur votre fils. Et non, mais c'était vraiment super. Et puis ensuite, du coup, ben, l'année passée, quand il était là, ben, on l'a invité à venir à Genève. Donc, il a prêché dans notre église en janvier. Et puis là, il va revenir renouveler l'expérience en janvier de nouveau qui va venir. Donc, on a fait connaissance. Alors, moi, j'entendais tellement parler de ses parents, ses frères, sa sœur. Et finalement, ben voilà, on m'a invité de venir à Toulouse. Et on s'est rencontrés. Et le courant passe bien. Donc, voilà, moi, j'ai gloire à Dieu pour ça. Alors voilà, c'est un plaisir d'être ici ce matin, de pouvoir annoncer la... Alors c'est toujours délicat, vous savez, on me demande de faire un séminaire sur la prédication. Alors j'ai donné la théorie hier, et aujourd'hui, alors ceux qui étaient, ils sont là, alors on va voir s'il applique ce qu'il prêche. C'est à peu près ça, non? Ouais. Écoutez, prions que le Seigneur m'aide aujourd'hui à ne pas défaire ce que j'ai dit hier. Écoutez, alors donc j'ai demandé à Michel, qu'est-ce que je pourrais prêcher aujourd'hui? Il m'a dit, écoute, on a un élan dans l'église d'évangélisation. Et donc, est-ce que tu pourrais peut-être aborder le thème de l'évangélisation? Donc, je le fais avec grand plaisir, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai très à cœur. J'adore Dieu, mais j'aime l'évangélisation. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Donc, ce que je propose de faire, c'est 3 choses ce matin. D'accord? J'aimerais aborder un texte dans Acte 8, tout à l'heure, d'accord, sur la conversion de l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien. D'accord? C'est un de mes textes préférés dans le Nouveau Testament. Mais pour illustrer... Donc, je fais un petit peu les choses en arrière, d'accord? Mais pour illustrer ce texte, j'aimerais en premier vous raconter mon témoignage. Parce que ce qu'on va faire en vous racontant mon témoignage, vous allez ensuite comprendre, lorsqu'on examine le texte, que mon témoignage est, comment dire, est une autre illustration plus moderne, si on veut, de ce qui s'est passé ce jour dans Acte 8 avec le témoignage ou la conversion de cet homme. Et vous allez voir comment les deux histoires vont se jumeler. Donc, la première partie, ce sera mon témoignage. Deuxième partie, ce sera en fait l'examen de ce texte. Et ensuite, on va terminer, si on a le temps, et si je me rappelle, si Christina me rappelle, je vous montrerai quelques images de mon témoignage. D'accord? Donc, on va voir si ça joue. On fait comme ça? Super. Mais écoutez, dans ce cas-là, on va prier et demander que le Seigneur nous guide ce matin. Seigneur, c'est un privilège ce matin de pouvoir être ici, d'adorer le Seigneur ensemble et maintenant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, elle est inspirée. Chaque mot, chaque lettre, chaque phrase est totalement inspirée, soufflée de Dieu. Et je te prie que tu utilises cette parole dans chacune de nos vies. Tu connais nos besoins, tu connais nos joies, tu connais nos peines, tu connais tout de chacun et chacune de nous ce matin. Il n'y a que toi, par ton esprit, qui peut vraiment appliquer cette parole comme il faut, aujourd'hui, à chacune de nos vies. Donc je te demande de le faire, Seigneur. Et de me guider, et que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Donc le titre de tout ça, ce matin, d'accord? Les 3 clés d'une évangélisation efficace. D'accord? Les 3 clés d'une évangélisation efficace. Ça, on les regardera tout à l'heure, les clés. Alors, je recule, vous donne mon histoire, et comme ça, vous allez comprendre ces choses. Alors, moi, je suis né en 1956 à Paris. Pas mal, non, vous trouvez pas? Ah ouais, vive Paris, d'accord. Mais en fait, je suis né de parents américains. Donc, je suis américain né à Paris. Mon père était homme d'affaires. Ma mère avait étudié le français aux États-Unis. Et donc, ils sont venus pour affaires ici. Et 3 mois après ma naissance, eh bien, il y a eu une guerre qui a éclaté. Apparemment, la guerre de Suez entre la France et l'Égypte. Enfin, du moins, une tension. Et donc, beaucoup d'étrangers ont eu peur et ont quitté la France. Donc, mes parents ont fait pareil. Ils ont eu peur, ils ont quitté la France et ils se sont installés à Genève. Et donc, moi, j'ai grandi à Genève pendant les premiers 15 ans de ma vie. Voilà pourquoi je parle français en tant qu'Américain. Et alors, là, je n'étais pas chrétien, mes parents n'étaient pas chrétiens, et je fréquentais une église à Genève. Tout ce que je me rappelle de cette église, c'est une église anglophone. Hein. C'était vraiment le club de Genève pour les Anglais à l'époque, les Américains à l'époque. Et moi, ce que je me rappelle, c'est le café. Super café, l'évangile, jamais entendu de ma vie. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et à l'âge de 15 ans, donc, moi, j'étais... Jeune, expatrié américain assez typique à Genève. J'ai fréquenté en premier une école francophone, de là l'école internationale de Genève. De là, mes parents m'ont envoyé à un internat. Et moi, j'étais ce qu'on appelle en anglais un partier. J'aimais bien m'éclater, m'amuser avec mes copains, copines et tout ça. Et donc, voilà, c'était un petit peu ma vie. Et à l'âge de 15 ans, mes parents pensaient que ce serait bien que j'aille aux États-Unis pour découvrir mon pays d'origine. Donc, ils m'ont envoyé dans un internat que pour des garçons au New Jersey. Ça, c'était pas bien, d'accord. Ça, j'ai pas trop aimé. Mais j'aimais beaucoup l'école, mais pas le fait qu'il y avait que des garçons. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et pendant ces deux années ou trois années, j'ai commencé à expérimenter avec les drogues. Parce que, c'est ce qu'on fait quand on a envie de s'éclater, quoi. Alors, c'était des expérimentations. De là, je suis allé à l'université de Syracuse. Syracuse, au nord d'OLUI. C'est marrant, on a découvert ça ce matin. C'est amusant, non? Voilà, donc là, j'y étais 4 ans. Et ma première année, alors là, c'était la liberté totale à l'américaine. Et donc là, j'ai commencé vraiment une vie de débauche totale. Et aussi, mon drogue douce, mais moi, le hashish, c'était mon truc. Donc moi, j'aimais beaucoup le hashish. Et voilà ce que je faisais. Alors, j'étais relativement bon étudiant. J'avais des notes correctes, mais je voyais au fur et à mesure que cette première année universitaire... Bon, mon objectif, c'était homme d'affaires comme mon père. Donc, j'ai fait une licence en langue et littérature espagnole, imaginez. Vous demandez pourquoi? Parce que je voulais être trilingue. Je me suis dit que si j'étais trilingue et j'avais si j'étudiais le business, ben je pourrais aller faire mes millions autour du monde. C'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai étudié l'espagnol et le business. Mais ce n'était pas vraiment ma passion. Et après cette première année, j'ai commencé à ressentir dans mon cœur un vide. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui me troublait profondément. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais pour moi, tout ce que je faisais, tout l'éclatement que je me permettais, ne me satisfaisait pas à l'intérieur de mon cœur. Alors mes parents, en grandissant à Genève, voyageaient énormément. L'Europe est petite, et donc on allait en beaucoup de voyages. Et moi, j'ai été élevé dans une culture de voyage. Donc à l'âge de 14 ans, j'avais mon vélomoteur. À l'époque, on avait ça. J'ai fait mon premier voyage avec un ami autour de la Suisse. De là, tous les étés, je venais, je travaillais un mois ou deux, puis ensuite je partais un mois quelque part en Espagne, voilà, avec un sac à dos, et je faisais mes voyages. Mes parents trouvaient ça super comme idée. Et alors voilà, à l'âge de 19 ans, je suis en crise quelque part dans mon université, donc je décide, comme il se permet de faire là-bas, d'arrêter une année. Donc j'arrêtais une année pour aller réfléchir à la vie et voir le sens de la vie. Là-bas, c'est très courant, donc ils disent très bien. Mes parents ont trouvé l'idée très bien. Donc je suis revenu à Genève, c'était l'été 1976, et là j'ai travaillé dans un restaurant à Genève, mais c'était pas trop mon truc non plus. Mais par contre j'ai économisé de l'argent, et j'ai décidé de faire le voyage de ma vie, pour découvrir le sens de la vie. Donc le 23 juin 1976, je prends un sac à dos, je mets 10 à 15 kilos de vêtements, de trucs, passeport, mon budget à l'époque, $3 par jour. Pas beaucoup, hein. Environ 2 euros. Bon, il y a 35 ans en arrière, on peut faire pas mal de choses avec 2 euros. Aujourd'hui, à peine un café. Mais bon, ça, c'est une autre histoire aussi, d'accord? Alors, je voulais voir jusqu'à où mon argent pouvait me prendre. Donc, le 23 juin 1976, je vais à la gare de Genève, Cornavin, et je prends le train. Et pour le premier mois, si vous regardez, si moi je suis la carte, le premier mois, j'ai fait la Suisse, Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie. Et mon but, c'était d'aller en Grèce pour bronzer. Voilà. Donc, je suis allé en Grèce, j'ai choisi 6 îles, d'accord? Et là, j'ai bronzé, c'est possible. Oui, j'ai vraiment bronzé, d'accord? J'étais vraiment très, très brun, en fait. Et surtout, j'avais les cheveux longs, j'avais une queue de cheval, et j'avais des cheveux à l'époque, d'accord? Et ils sont devenus super blonds. Alors, j'avais un look hyper cool, quoi, d'accord? C'était blond, bronzé, hachiche, tout. C'était la belle vie, hein? Je faisais mes îles, je dormais dans la plage. Bon, ça, c'est plus possible, on n'a plus le droit de faire ça. Mais je dormais, c'était vraiment génial, quoi, d'un côté. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en même temps, ce vide dans mon cœur ressurgissait. Et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais il y avait un truc. Je vivais d'un côté la vie d'un roi, mais de l'autre côté, il y avait un truc qui manquait. Alors j'ai rencontré un gars, il m'a dit, John, il faut aller travailler. Il faut aller en Israël, travailler dans un kibbutz. Un kibbutz, c'est une sorte de ferme. Hein, on va travailler. J'ai dit, ok, j'y vais. Alors je vais en Israël. Et le lendemain matin, je suis dans le kibbutz Betashita. Et eux, c'est des spécialistes des olives. Alors, à 4 heures du matin, tac, je suis en train de cueillir des olives dans les oliviers israéliens, dans le kibbutz Betashita. Alors ça, c'était génial pendant 2 jours. D'accord ? Et alors, comment on cueille les olives ? Ben, aujourd'hui, c'est des machines, mais à l'époque, qui a déjà trait une vache à la main ? Oh ouais, donc il y a des connaisseurs là, d'accord. Alors si vous savez traire une vache, vous savez cueillir des olives, parce qu'on traite les olives comme ça dans les paniers, ensuite tac, on les verse, on fait ça toute la journée. Alors bon, c'était pas du tout ça qui allait combler le vide dans mon cœur, ça c'est sûr. Alors j'ai duré 3 semaines dans ce kibbutz, et ensuite j'ai quitté. Et là je suis allé à Jérusalem pour aller voir. Et là j'ai acheté un guide. Et dans ce guide, ils m'ont dit, il faut aller au jardin du tombeau. Le jardin du tombeau, c'est un des 2 endroits où on pense que Jésus a été enterré. Alors j'y vais, moi je suis assez matinal, 8h du matin, je suis le premier. J'arrive là, clac, dans le jardin du tombeau, et paf, devant moi, un tombeau, le tombeau de Jésus-Christ. Alors, moi j'étais croyant, je croyais en Dieu, hein, d'accord hein. Mais là, tu es devant le tombeau de Jésus, tu dis, mais c'est incroyable, quoi. Historiquement, là, tu es là, tu dis, mais c'est le tombeau de Jésus. Et je rentre à l'intérieur du tombeau de Jésus. Je suis dedans. Et là, je suis saisi d'une émotion. J'ai des frissons là sur le corps entier. Je me dis, mais c'est dingue, quoi. Je suis dans le tombeau de Jésus-Christ. Je sors et je vais juste un petit peu plus loin à Golgotha. Golgotha, c'est où là, Jésus était crucifié. Et là, je suis debout à Golgotha. Il y a une plaque qui dit, Jésus était crucifié ici. Là, tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Je suis exactement à l'endroit où Jésus, bon, je ne savais pas qui c'était, sauf que c'était Jésus, quoi, et que là, il a été crucifié. Et là, pour une raison inexpliquée au moment, je commence à pleurer comme un bébé, saisi d'émotion. Je pleure. Mais je ne comprends pas pourquoi. Puis ensuite, je me dis, mais attends, c'est vraiment bête, quoi, ce que je suis en train de faire là. Alors, j'ai arrêté de pleurer, et j'ai mis l'histoire de côté. Je suis resté en Israël encore un mois, j'ai fait du stop et tout ça. Et ensuite, j'ai rencontré un gars, parce que j'avais encore ce vide dans mon cœur. Il me dit, John, si tu veux vraiment trouver et comprendre le sens de la vie, il faut aller en Asie. Je dis, d'accord, j'y vais. Alors voilà. Alors je pars d'Israël, je retourne à Athènes, en Grèce, et là je prends un train jusqu'à Istanbul, en Turquie. Alors si vous regardez de nouveau le plan, ça c'est l'Europe, clac, et ça c'est l'Asie, clac. Et entre les deux, il y a un pont, littéralement, à Istanbul. Et à l'époque, il y avait beaucoup de voyageurs qui passaient à droite à gauche. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça à cause d'Iran et tout ça. Et il y avait des grands parkings avec des bus, des jeeps, des voitures, toutes sortes de personnes qui voyageaient. Alors moi, je suis à Istanbul. Et je vois un gros bus bleu qui dit « Voyageur pour l'Inde voulu ou recherché, $40 ». Je me dis « Ah, c'est l'affaire du siècle, d'avoir $40 pour aller en Inde. C'est quand même pas cher. » Alors j'y vais. Je monte dans le bus, on est environ 15, alors c'était tous des hippies, hein. C'était l'époque, c'était le Jesus, enfin non, c'était l'époque des hippies, comment on appelle ça, the free crowd, ça s'appelait, la route des hippies. Et tout le monde allait au Népal pour des drogues, d'accord. Alors c'était les choses jusqu'à là, c'était les barbus, tout ça. Alors moi je suis là avec eux, et on prend ce bus, et pendant 6 semaines, on traverse la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. En bus, d'accord. C'était un peu long. Mais bon, on s'arrêtait souvent et tout ça. Et alors, beaucoup de choses se sont passées pendant ce voyage, mais le plus important, c'est qu'en Afghanistan, alors il y a beaucoup de drogue, et on s'est fait arrêter à Herat, en Afghanistan. Ils ont confisqué nos passeports, et ils nous ont menacé de nous mettre en prison. Et là, c'était le jour où j'ai eu le plus peur de ma vie. Parce que, bon, l'Afghanistan, il y a 35 ans en arrière, bon, aujourd'hui, c'est pas... Hein, enfin, on se comprend. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie ? Alors on est continué, on ne nous a pas mis en prison, on a continué en Inde, alors c'est là où j'ai eu de nouveau très peur, parce que tous mes amis ont sorti des seringues et ont commencé à se shooter avec de l'héroïne. Et ça je me suis dit, alors ça c'est pas moi. Parce qu'on a tous une conscience, hein. Notre conscience c'est quoi? C'est une sorte de barre. Et quand on dépasse cette conscience, alors la mienne elle était très fichue quelque part, alors je me permettais des choses que je ne devais pas, mais bon je le faisais quand même, mais tout le monde a une conscience et à un moment donné ça commence à clignoter à fond quoi. Il faut arrêter. C'est une conscience, c'est une alarme qui te dit moralement, arrête. Et moi, je savais que quand je voyais ces seringues, ce n'était pas moi, quoi. Alors, j'ai quitté le bus à New Delhi. Ça faisait 5 mois que je voyageais. Et j'arrête tout ça. Je me dis, non, ce n'est pas moi. Et là, je suis tout seul à New Delhi maintenant. Et je trouve un hôtel. C'était 60 cents la nuit. C'était pas cher. Sur un toit, d'accord ? Et je me dis, voilà, en plus, alors, il y a la pauvreté, la saleté des gens qui meurent dans les rues, c'était incroyable, quoi. Tu vois des trucs, tu dis, mais c'est pas possible que c'est vraiment vrai, tout ça. Et là, alors maintenant, je suis en plus avec ce vide dans mon cœur perpétuel, avec la peur de ce que j'avais vécu, mais avec cette pauvreté autour de moi, puis des gens avec des points rouges, des vaches, je sais pas, c'est un autre monde, c'est un petit peu Indiana Jones en vrai, hein, c'est un peu ça, quoi. Et tu dis, mais c'est incroyable. Mais j'étais tellement envahi par tout ça que je me suis dit, non, moi, je peux plus, je rentre. Donc j'achète un billet d'avion. J'ai toujours acheté l'argent dans ma poche pour un billet d'avion. J'achète mon billet d'avion, je pars le lendemain. Je rentre à Genève. Alors, je suis dans la rue de Janpat, à New Delhi. Et je me promène, mon dernier jour à New Delhi. Je regarde à droite et à gauche. Et là, dans la rue, je vois un homme qui distribue des traités. Alors, je discute avec lui. Super sympa. Un missionnaire dans une secte qui s'appelle les Enfants de Dieu. Super sympa, hollandais. Je fais jusqu'à là. Distribue des traités. Je dis, on discute. Il me dit, John, est-ce que tu vas aller boire un coca? Je dis, ouais, on va boire un coca. Non, on discute. Et tout d'un coup, il me dit, John, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible? Alors là, moi, je dis, ah, non. Moi, les chrétiens, je les connaissais, d'accord? Je les connaissais à Syracuse. Ils étaient tous comme vous et moi aujourd'hui. Cheveux courts, d'accord? Église, Bible, tu vois, bien. Bon, à l'époque, c'était les cravates, d'accord? Puis je me disais, mais c'est barbant, je sais pas, ils vont à l'église, moi c'était vraiment pas mon truc. Alors je me disais, c'est une vie inintéressante. Il me dit, est-ce que je peux te montrer une vie dans un verset dans la Bible? Il me dit, John, la Bible c'est le best-seller de tous les temps. Tu devrais au moins connaître un verset. D'accord, fatal. Il ouvre la Bible à un verset, devinez lequel? Jean 3,16. Il ouvre la Bible et il dit, regarde, on va lire le verset. J'ai dit, d'accord. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit, ok. Il a dit, John, analysons le verset. D'accord. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde veut dire qui? J'ai dit, le monde. Il a dit exactement. Et John. Car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son fils unique. Il a dit, c'est qui le fils unique? Alors on a discuté et tout d'un coup, quand il m'a expliqué que c'était Jésus, je me suis rappelé que j'avais été en Israël. C'était comme un flashback au tombeau dans lequel j'avais mis les pieds et à Golgotha que j'avais touché de mes pieds. Et là, pour la première fois de ma vie, la Bible était un livre historiquement fiable. C'était du vrai, c'était du béton. Et là, j'ai eu peur. Car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a dit, John, c'est simple, tu as deux choix. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi et tes péchés. La Bible dit, car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Un, tu peux rejeter Jésus-Christ. Il ne te pardonnera pas, et là tu passeras l'éternité coupée de lui, c'est ce qu'on appelle l'enfer, parce que tu n'auras pas été pardonné de tes péchés, et tu vivras éternellement coupé d'un Dieu parfaitement saint. Et là tu souffriras. Ou bien, tu peux faire ce que le verset dit. Tu peux croire, recevoir Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Il te pardonnera tes péchés et il te donnera la vie éternelle maintenant. Et en un instant, tous tes péchés seront totalement pardonnés et tu recevras la vie éternelle. Qu'est-ce que tu veux faire? Waouh! Là, j'ai eu la trouille. Je suis sorti. Le gars, il m'a suivi. Il m'a tourné comme ça dans la rue. Il m'a dit, John, c'est ta dernière chance. Repends-toi maintenant et crois en Jésus-Christ. Vous savez, je savais que j'étais pécheur. J'avais ce vide dans mon cœur qui durait depuis des années. Je savais que Jésus-Christ était la solution. Et donc là, dans la rue, le 4 novembre 1976, j'ai baissé ma tête. Hein, il y avait des vaches, des Indiens, de la poussière et tout ça. J'ai dit, Jésus-Christ, bon, j'avais un petit doute, c'est normal. J'ai dit, Jésus-Christ, si vraiment tu peux, en un instant, pardonner mes péchés, j'ai rien à perdre. Sauf mon péché. J'ai tout à gagner, la vie éternelle. Donc j'ai dit, Jésus-Christ, si tu peux le faire, je te demande maintenant, de rentrer dans mon cœur, de me pardonner tous mes péchés et de me donner la vie éternelle. Vous savez ce qui s'est passé? Pas de voix du ciel, d'accord? Pas de nuages, pas d'éclairs, tu vois? Non! À ce moment-là, le Dieu de l'univers a envahi mon petit cœur. Et en un instant, il l'a complètement transformé. À cet instant même, tous mes péchés, passés, présents, futurs, ont été complètement pardonnés. Totalement. Et j'ai reçu la vie éternelle. Et vous savez, je ne peux pas le prouver ça. Mais je savais. Je savais ce jour-là que mon cœur, enfin, avait été rempli par Dieu. Alors là, c'était émotionnellement une totale pour moi. Alors, je dis merci au gars, je lui dis au revoir. Je n'ai aucune idée aujourd'hui qui cet homme est et lui n'a aucune idée ce qui s'est passé avec moi. Mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose, un défi. Vous aimez faire de l'évangélisation comme ça, là, dans les rues, vous parlez avec quelqu'un 3 minutes, 4 minutes, j'espère que vous dites oui, parce que moi je suis le résultat de quelqu'un qui a fait ça pour moi. Moi je dis aux gens, il ne faut pas être un érudit pour faire de l'évangélisation, il faut connaître un verset, il faut 5 minutes, et un petit peu de courage. Je répète, il faut un verset, 5 minutes et un petit peu de courage. Et Dieu peut prendre sa parole et transformer une vie. Moi, je rentre à mon hôtel. T'as, longue histoire. Je me donne un petit Nouveau Testament, j'en ai un, d'accord? Je commence à lire. Waouh, c'est comme les paroles jaillissent des pages, me remplissent. Je commence à prier, c'était une pleine lune ce soir-là. Je commence à prier à haute voix. Je commence à parler à Dieu comme mon Père. Incroyable, moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et le lendemain, ah oui, l'autre chose, j'avais 2 paquets de hashish dans les poches, ça je me rappelle aussi. Et je rentre à mon hôtel et tous mes amis sont là en train de fumer. Et puis je les regarde, je me dis, c'est stupide. Je sors mes 2 paquets de hashish, je leur donne. Ah oui, ils sont super contents. Moi, je suis 2 fois plus content parce que je me suis libéré ce jour-là. Et c'est intéressant, la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas fumer du hashish, d'accord? Elle ne le dit pas en texto, d'accord? Mais on a la pensée de Christ, nous dit encore un tien, n'est-ce pas? Et donc, c'est comme si Dieu m'avait montré que c'est inutile. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, pourquoi faire ça? J'ai laissé ça, je n'ai plus jamais retouché. Je fumais 2 paquets de cigarettes, c'était pareil. Tout ça, j'ai arrêté, c'était super. Le Seigneur a vraiment lavé ma vie. Et là, le lendemain, maintenant, alors, j'ai un jour dans le Seigneur, je connais un verset. Et je prends l'avion. Je me tourne au gars à côté de moi, je dis, écoutez monsieur, un truc incroyable s'est passé hier. Alors, je lui explique mon histoire. Un verset, je sors, jour 3-16, comment je le dis, écoutez monsieur, vous allez en enfer, il faut aller au ciel et tout ça. Le gars, il est musulman. Alors il me regarde, what is your problem, sir? Alors, il ne comprenait pas du tout, et moi je ne comprenais pas, je me dis, mais attends, voir, mais monsieur, écoutez, c'est la vie éternelle, et j'ai réalisé que ma famille, ils n'allaient rien comprendre. Alors j'ai arrêté, je suis descendu de l'avion à Bombay, et je suis allé à Goa, en Inde, au sud de l'Inde, parce que j'ai plus d'argent, on m'a dit que c'était là où les hippies allaient vivre pour pas cher. Donc j'y allais là-bas, et là j'ai rencontré de nouveau les enfants de Dieu. C'était, pour moi, c'était des chrétiens. Alors, moi je pense que dans les sectes, il y a des vrais chrétiens, ils sont dans les sectes parce qu'ils ont été mal guidés. Ce gars qui m'a amené au Seigneur, il était vraiment chrétien. J'étais avec ces gens, donc je les ai rencontrés. Pendant 1 mois, ils m'ont enseigné des trucs, et ensuite j'ai réalisé qu'ils avaient vraiment des grosses erreurs, et Dieu, par sa grâce, m'a sorti de ce groupe. Et finalement, je suis rentré chez moi 1 mois plus tard, retourné à Syracuse University et là, j'ai rencontré un groupe qui s'appelle. Ben, c'était marrant parce que j'arrive aux États-Unis, puis moi je ne connaissais aucun chrétien en Amérique. Alors j'appelle l'opératrice, hein, on pousse un zéro là-bas, et il y a l'opératrice, oui, bonjour, est-ce que je peux vous aider? J'ai dit oui, écoutez, bonjour, je cherche des chrétiens, est-ce que vous pouvez me donner des chrétiens s'il vous plaît? Alors elle me donne la liste de toutes les églises à Syracuse et tous les groupes chrétiens universitaires, et moi j'atterris avec Campus pour Christ, Agapé, parce que j'aimais les capacités spirituelles et l'évangélisation. Alors voilà, pendant 3 ans, j'étais avec eux. Alors là, ma vie avait complètement changé. Mes amis d'avant, ils n'ont rien compris. Et moi, j'étais tout heureux. Et donc, alors, j'ai terminé mes études et j'ai continué avec Campus pour Christ pendant 3 ans. Et suite à ça, alors maintenant, je sentais l'appel du Seigneur. Alors, c'est marrant, parce que je savais que je voulais rentrer à Genève. Dieu a remis ce désir dans moi de retourner dans la ville de Genève où j'avais grandi, où j'avais jamais entendu l'évangile de ma vie. Et alors, longue histoire, après l'université, je suis devenu steward pour une compagnie aérienne, parce qu'il fallait que je travaille, et là, j'ai rencontré mon épouse, Meg, qui était hôtesse de l'air, chrétienne, convertie au Japon, et de là, on est allé en Californie, à l'église de MacArthur, pour être formé. Et donc, c'est là où j'ai fait ma formation, j'ai eu ma maîtrise de théologie, et de là, le désir de revenir était très, très fort. On a en fait atterri à Lyon pendant 1 an, comme missionnaire, 10 ans à Paris, et maintenant 14 ans à Genève. Alors voilà un petit peu la fin de la chose. Alors, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Vous savez, je sais que les circonstances sont un petit peu flash, d'accord? Je comprends ça. L'important, c'est que toute conversion est un miracle de Dieu, n'est-ce pas? Qu'elle soit flash, circonstanciellement ou pas, c'est la conversion l'important. Alors, revenons maintenant au but de ce texte. Allez avec moi à Actes chapitre 8 et je vais vous montrer comment tout ça rentre en ligne avec ce texte, surtout l'évangélisation. Ce que j'aimerais vous montrer et ce que j'aimerais voir avec vous, j'ai jusqu'à quelle heure, je n'ai même pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Non mais dis-moi quand même pour avoir une idée. 2 heures? Non, moins quart ou midi? Parfait, super. Ok. Alors écoutez, les 3 clés d'une évangélisation efficace. Et je pense qu'en regardant ce texte, on va comprendre mieux comment faire l'évangélisation et surtout une évangélisation efficace sans culpabilité. D'accord? Vous allez voir comment ça marche. Alors, on est dans Acte 8. Acte 8, c'est l'histoire de Philippe et l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien. On est au verset 26. Alors, je vais vous donner les 3 points. Le premier, d'accord? Rentrons tout de suite en matière. Quelle est la première clé d'une évangélisation efficace? Numéro 1, il faut la préparation du messager. La préparation du messager. Je vais lire le texte, d'accord? On va juste le lire, comme ça vous allez comprendre. On est dans Acte 8 et le verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un me le guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait est celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient dans leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lequel il passait. Amen. Alors, quelles sont les trois clés d'une évangélisation efficace? Numéro un, il faut la préparation d'un messager. C'est sûr, j'ai beaucoup pensé à ça. Avant que l'évangélisation peut avoir lieu, il doit y avoir un messager. Et je me suis souvent posé la question, mais est-ce que Dieu aurait pu? Alors, je vous pose une question, d'accord? Est-ce que Dieu pourrait, s'il voulait, écrire l'évangile dans le ciel en utilisant les nuages sur Toulouse aujourd'hui? Ce qui est rare, je sais, d'accord? Mais est-ce qu'il pourrait prendre ces nuages et écrire Jean 3,16? Est-ce qu'il pourrait? Oui. Est-ce qu'il le fait? Non. Est-ce que Dieu, par exemple, la nuit, parce qu'ici, je pense qu'il y a très peu de nuages, d'habitude, donc on voit les étoiles briller. Est-ce que Dieu pourrait prendre les étoiles et écrire l'évangile avec les étoiles? Est-ce qu'il pourrait faire ça? Est-ce qu'il le fait? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout simplement parce que ce n'est pas son plan. C'est pas comme ça que lui a conçu les choses. Alors comment est-ce qu'il a conçu les choses? Eh bien, dans Romains 10, et le verset 13, il est dit ceci. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Voyez-vous, dans la conception de Dieu, c'est lui qui a créé tout ça, d'accord? Il a toujours voulu qu'il y ait un messager humain, globalement. Pour apporter et annoncer l'évangile, Jésus a dit, vous vous rappelez dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » À qui a-t-il dit ça? À ses disciples. Il dit, écoutez, messieurs, votre job, c'est d'aller annoncer l'évangile dans le monde. Ça, c'est le job. Ça, c'est notre devoir. Ok, mais quelle sorte de messager veut-il? Quelle sorte de messager? Quelles sont les qualifications pour être messager? Pour être évangéliste ou témoin? Alors ça, c'est assez facile à voir, parce qu'on n'a qu'à utiliser notre ami Philippe ici. Tout ce qu'il faut faire, c'est de retourner au chapitre 6 des Actes, allons-y, d'accord? Parce qu'on va dessiner rapidement le portrait de cet homme pour voir si Dieu l'a utilisé pour amener l'eunuque au Seigneur, ben quel genre d'homme est-ce que Dieu veut utiliser, ou femme bien sûr, pour amener quelqu'un au Seigneur? Ben peut-être les traits qui sont en lui sont les traits qui devraient être en nous. Alors il y en a plusieurs, il y en a en fait 7. Alors on est dans acte 6 et là il y a eu un problème. Vous rappelez, enfin pas un problème, c'est un bon problème. L'Église, le Saint-Esprit est venu dans acte 2, l'Église a grandi par des milliers de conversions et là il y a un problème de gestion et des femmes hellénistes, des femmes grecques manquent de nourriture. Voilà le problème, une des premières crises dans l'Église de Jérusalem. Et alors, verset 2, les 12 convoquèrent une multitude parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour gérer cette crise. Et alors, au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Donc, ils choisissent 7 hommes. Alors, c'est intéressant de voir qui sont ces hommes. Verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, numéro 1, homme plein de foi et d'esprit. Et numéro 2, c'est qui? C'est notre ami Philippe. Très intéressant. Alors, Philippe est numéro 2, ici. Quelle sorte d'homme était-il pour avoir été choisi pour cette tâche? Numéro 1, il avait une bonne réputation, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage. Un bon témoignage, ça veut dire quoi? Très simple. Qu'est-ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas là? Ça, c'est votre réputation. C'est votre réputation. Qu'est-ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas là? Et oui, il avait une bonne réputation. Ecclésiaste 7.1 nous dit qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Deuxièmement, il était plein de l'esprit, c'est ce qu'il a dit au verset 3. Plein de l'esprit, ça veut dire qu'il était rempli du Saint-Esprit, Éphésiens 5.18. Il marchait par l'esprit, Galates 5.16. Il reflétait le fruit de l'esprit, Galates 5, 22 et 23. Ça veut dire que cet homme était rempli de la parole de Dieu, Colossiens 3, 16. L'esprit travaille en lui, un homme qui avait une vie sainte. Un homme droit. Le Saint-Esprit contrôlait sa vie. 3. Il était rempli de sagesse aussi, nous dit le verset 3. C'est intéressant en français, vous savez, quand un enfant est obéissant, qu'est-ce qu'on dit? Oh, il est obéissant. Non, on dit quoi d'habitude? Oh, il est sage. C'est marrant. Parce que même le français, très bien, montre que la vraie sagesse, ce n'est pas simplement de connaître, c'est d'appliquer ce qu'on connaît. Donc la sagesse, c'est l'obéissance. C'était un homme droit, obéissant, il connaissait la parole et il appliquait la parole. 4. Il était soumis. Au verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, et Philippe. Alors c'est intéressant, quand on dit à Philippe, hé Philippe, écoute, est-ce que tu pourrais, toi, plein du Saint-Esprit, plein de sagesse, et toi, homme de Dieu, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, venir servir les veuves? Réponse, bien sûr. Aucun problème. Soumis. Et humble, cinquièmement, verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Vous savez, il n'est pas compliqué, Philippe. Ouais, bah écoutez, est-ce que vous avez besoin de moi? Pas de problème. Bon, c'est pas un travail très flash, vous savez, de servir de la nourriture à des veuves. Mais une autre partie de cet homme, regardez chapitre 8, verset 1. Alors, il y a une persécution maintenant, d'accord? Persécution. Et regardez ce qui se passe. Alors l'Église s'éparpille, verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient du lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Donc l'Église dégage. Regardez le premier sur la liste, verset 5. « Philippe, c'est l'autre gars, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, Dieu a donné à cet homme le don des miracles en plus. Donc il prêche, il fait des miracles, verset 7. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, donc il chasse des démons. Nous poussons des cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Très bien. Philippe a un ministère dans toute une ville. Il est connu, ça marche, il y a des gens qui se convertissent, il y a des miracles, il y a des démons qui sont chassés. Non, mais le gars, c'est une sommité dans cette ville. Et moi, je trouve ça génial. Parce que le gars, il a un ministère qui explose. Verset 26 du chapitre 8, regardez. « Et un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Dieu dit, « Écoute, toi qui as un ministère fulgurant dans cette ville, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller dans ce petit chemin paumé dans le désert ?» Il dit quoi ?« Seigneur, écoute, franchement, écoute, là, regarde, mon ministère explose !» Non. Verset 27, « Il se leva et partit. » Vous savez pourquoi ? Parce que cet homme était complètement soumis au Seigneur. Lui, il voulait être dans le centre de la volonté de Dieu. Et moi, ce que j'en tire comme conclusion ici, c'est que Dieu a besoin de messagers. Il a besoin de messagers, de gens qui sont prêts à être mobilisés à n'importe quel instant, sans même savoir pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Philippe, il n'a aucune idée pourquoi il doit aller sur ce chemin du désert. Mais il est prêt. Moi, je me mets dans la place de Dieu. Je ne suis pas Dieu, d'accord. Mais si j'étais Dieu et j'avais des gens prêts à recevoir l'Évangile, qui est-ce que je voudrais pour aller apporter l'Évangile à ces personnes? Ben, des gens qui sont prêts à être déployés, des gens qui connaissent l'Évangile, des gens qui sont prêts à se bouger, des gens qui sont d'accord de prendre un risque, des gens qui connaissent un verset, qui ont 5 minutes et un petit peu de courage. Voilà, des gens qui sont prêts. Et Dieu a regardé et s'est dit, Philippe, il est prêt. J'ai besoin de lui. Je déploie. Et je pense que la conclusion ici, moi je pense à ce gars qui m'a amené au Seigneur en Inde. Alors, il était dans une secte, d'accord, mais il connaissait le Seigneur. Et je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qu'il a fallu à cet homme? De la Hollande, pour être le 4 novembre 1976, dans la rue Janpat, à New Delhi, pour moi. C'est intéressant comme question, non? La préparation de cet homme, sa conversion. Il connaissait un verset, il a pris 5 minutes, il avait du courage. Certes, dans un groupe qui n'est pas top, mais Dieu utilise sa parole, n'est-ce pas? Moi, je me suis dit, alors, si Dieu a utilisé cet homme-là, comment est-ce qu'il devrait nous utiliser, nous? Est-ce que nous, on est prêts à être utilisés par le Seigneur comme ça? Donc ça, c'est le premier trait, la première clé d'une évangélisation efficace. Il faut la préparation du messager, numéro 2. Numéro 2. Non seulement faut-il la préparation du messager, il faut la préparation du destinataire, de la personne qui va recevoir l'évangile. Et ça, je trouve ça génial ici. Parce que Philippe n'a aucune idée que le Seigneur est en train de préparer cet homme. Alors, c'est qui? Ben, regardons, c'est très simple. Hein. Dieu prépare cet Éthiopien d'une manière incroyable pour qu'il soit prêt à recevoir l'évangile. Qu'est-ce qu'on voit chez lui? Regardez verset 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, se retournait assis sur son char et lisait le prophète d'Ésaïe. Il y a plusieurs traits de cet homme qu'on remarque. Normalement, il était éthiopien. Littéralement, du Soudan ou de l'Égypte aujourd'hui. Africain. D'accord. Deuxièmement, c'était un eunuque. C'est un homme castré afin de garantir une irréprochabilité sexuelle auprès du harem du roi. Donc, il était castré. Eunuque. Trois, c'était un homme de gouvernement très important. Il se leva, partit, voici un homme éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. Écoutez, c'était le ministre des finances d'un pays. C'est pas rien. Très riche, probablement. Probablement tout un entourage autour de lui aussi. Hein. Et on sait en plus qu'il est religieux. Pourquoi? Pas parce qu'il est dit au verset 28 qu'il se retournait, il était venu à Jérusalem pour adorer, verset 27, et il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire à Jérusalem? Eh bien, il est venu pour la Pentecôte, acte 2. Il est probablement un converti, un prosélyte juif. Donc il était païen, non juif. À un moment donné, il s'est converti au judaïsme, on ne sait pas comment. Il adorait Dieu, mais apparemment il n'était pas converti puisqu'il se convertit dans cette histoire. D'accord? Donc il n'est pas converti. Mais il est religieux et donc il va à Jérusalem avec tous ses autres juifs pour adorer Dieu. Et là, il a eu des célébrations et il retourne sur son char. Et cinquièmement, on apprend que c'était un homme en quête. Le gars, il avait un vide dans son cœur. On sait très bien parce qu'il est là en train de lire Ésaïe. Alors, il faut déjà le faire. Hein. Il est en train de lire Ésaïe, mais ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Et ouais, c'est ça, pas encore. Donc il lit Ésaïe, donc c'est très bien, mais il n'y comprend rien à ce qu'il lit. Il comprend rien. Car il lisait le prophète Ésaïe, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Puis il dit, mais comment est-ce que je peux comprendre si personne me guide? Mais non, j'y comprends rien. Rien du tout. Allez voir, est-ce que vous voyez comment Dieu a préparé cet homme? Cet homme est prêt, il cherche des réponses, il a un cœur vide, il a même une Bible que Dieu lui a donnée, il est même allé à Jérusalem, il est proche, mais il ne connaît pas le Seigneur. Vous savez, quand on est arrivé en France il y a 24 ans en arrière, notre première année on atterrit à Lyon, dans un petit village qui s'appelle L'Arbrel. Petit village, vous connaissez? Ouais? Ah ouais, super, d'accord. Super. L'Arbrel, c'est un petit village du 15e siècle. Une petite église, là. Alors, nous, on cherchait un logement. Et il y avait le boulanger. Typique français, avec la toque, tablier, super. Le gars, génial, grand sourire et tout. Alors, il loue un petit appartement au-dessus de la boulangerie. Alors, ça, c'était mortel, par contre, parce qu'avec les fenêtres ouvertes, l'odeur, là, c'était mortel. C'était super, par contre. Bref. Il voulait louer un appartement et alors on frappe à la porte, enfin on rentre dans la boulangerie, on dit écoutez, on voit qu'il y a un appartement à louer et nous on aimerait peut-être le louer, est-ce qu'on pourrait le voir? Il dit ah bon, d'accord, et qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Alors moi je dis bah écoutez, on est américain. Ah bon, c'est américain, et qu'est-ce que vous faites à L'Arbrel? Parce que c'est comme un petit village. Je dis bah écoutez, je suis pasteur. À quoi il répond? Exactement comme ça. Ah! Je le regarde et je fais ah! Il fait « Ah !» Je fais « Ah !» Il dit « Écoutez, monsieur Glass, c'est incroyable. » C'est lui qui me parle. Il me dit « Figurez-vous que ma femme et moi, depuis un an, nous lisons la Bible tous les jours et nous venons de la terminer et nous n'y comprenons rien. Et ensuite, il m'a dit, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire « Wow !» Et dans mon cœur, je dis « Écoutez, oui, je pense qu'on pourrait, ça pourrait s'arranger, n'est-ce pas ?» Mais j'y croyais pas, je me disais « Mais c'est incroyable, quoi, le gars, il lit la Bible depuis un an, et il me dit qu'il n'y comprend rien. » Je me dis « Mais vous voyez comment Dieu prépare les gens ?» On a commencé deux études bibliques, lui et tous ses voisins, puis ensuite on a dû partir de l'Arbrel, alors je n'ai pas les dernières données. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec lui. Mais c'était super intéressant de voir comment Dieu, moi ça m'a montré que Dieu prépare des gens. Mes amis, à Toulouse, là où vous habitez, à l'université, dans les magasins autour de vous, dans les familles, tout autour de vous, il y a des milliers, des centaines peut-être de milliers de personnes qui sont comme l'eunuque, qui se posent des questions. Ils se posent les bonnes questions et ils sont prêts. Mais ils attendent un messager. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Je sais que c'est vrai parce que vous voyez des conversions dans votre église, n'est-ce pas ? Nous, on voit des conversions à Genève. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont prêts dans cette ville. Ils sont partout. Ils sont tout autour. Ils sont là, ils sont quelque part. Il y en a peut-être qui ont les Bibles, il y en a qui écoutent la radio, il y en a qui peut-être ont grandi dans les familles, peut-être chrétiennes ou pas, j'en sais rien. Il y a des gens qui sont prêts partout, il y a peut-être des voyageurs en sac à dos, des hippies qui sont dans la rue à Toulouse et ils attendent quelqu'un, ils sont prêts. Et moi j'ai souvent pensé à ça, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a pris moi, de Genève jusqu'à New Delhi, pour rencontrer un messager ? Franchement, j'en sais strictement rien. Je pense que j'ai dû être un cas difficile pour Dieu, j'en sais rien, c'est ma seule conclusion. Mais j'ai dû apparemment être sorti de mon contexte, déboussolé, complètement cassé et brisé pour pouvoir être, comment dire, à l'écoute du Seigneur. Il y en a plein à Toulouse comme ça. Vous les côtoyez tous les jours. C'est pas compliqué, mes amis. Un verset, 5 minutes et un peu de courage peut transformer une vie. Donc ça, c'est le deuxième point. Voyez-vous la préparation d'un messager, préparation de destinataire, et maintenant il y a le troisième point. Et là, c'est la fin. Vous êtes prêts ? Troisième clé d'une évangélisation efficace, la préparation des circonstances. Ça qui est génial, il n'y a que Dieu qui peut prendre un messager qui est prêt et un destinataire qui est prêt et les amener ensemble. Et regardez ce qui se passe ici, c'est super. Regardez. Alors, notre ami Philippe part en courant pour aller sur la route du désert. Il ne sait pas pourquoi. On change l'image. L'Éthiopien sur son char en train de lire la Bible, il ne comprend rien. L'un ne sait pas que l'autre est là, l'autre ne sait pas que l'autre est là. Que se passe-t-il ? Verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc, alors c'est marrant, on est dans le désert, là il y a une rue, et on voit le char, il y a peut-être un entourage, et tout d'un coup il y a Philippe qui apparaît, et il marche. Et là il est à côté du char. Il marche. On sait qu'il marche et qu'il écoute parce qu'il est dit, ou peut-être qu'il a cheval, ça j'en sais rien, mais il dit, il écoute l'Éthiopien lire Ésaïe. Et Philippe a couru, donc il court et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Donc il est en train de lire à haute voix et lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi, Jean, je remarque que vous êtes en train de lire Ésaïe 53, je connais le texte. Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez ? Ah ben non, tiens, c'est marrant, c'est incroyable que vous me posez ces questions, parce que je ne comprends pas du tout, non. Non, je ne comprends pas. Ah bon, d'accord, écoutez, alors... Et il dit, verset 31, mais comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Écoutez, j'ai besoin d'un guide, ça tombe vraiment bien, monsieur. Vraiment, mais alors, le timing est parfait. Regardez, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et regardez, il y a une place à côté de moi. Monsieur, montez s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous asseoir là et m'expliquer la Bible ? Mais t'allais voir, rendre compte, c'est génial le truc. Et verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci, Ésaïe 53. Et l'eunuque, verset 34, dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» La question parfaite. Alors Philippe, qui a la réponse parfaite, parce qu'il est prêt. Ouvrant la bouche, qui va articuler l'Évangile. Et commençant par ce passage, qui veut dire qu'il connaissait Ésaïe 53. Il n'avait pas d'iPad ou iPhone, il n'avait pas un petit truc là avec... Vous pouvez éviter de chercher, il connaissait par cœur. Hein. Ça, c'est tout un autre truc, il connaissait. Il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il y annonce l'Évangile. Alors c'est intéressant que dans sa présentation de l'Évangile, il lui dit quelque chose. Il lui dit, au fait, si tu te convertis, il faudra te faire baptiser. On le sait parce qu'il dit, au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et regardez, c'est l'eunuque qui parle ici. Hé, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Donc c'est intéressant que même dans la présentation de l'Évangile, il lui a dit, écoute, voilà, tu dois croire en Jésus-Christ pour être sauvé, et lorsque tu es sauvé, tu vas devoir être baptisé pour montrer publiquement l'authenticité de ta conversion. Alors le gars, il a compris, il a dit, regarde, il y a de l'eau, est-ce que je peux être baptisé? Verset 37, Philippe répondit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. On croit, et ensuite on est baptisé, qui représente la mort, la résurrection, Jésus-Christ avec nous, enfin nous avec lui. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Conversion. Alors il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, qui montre dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Il le baptise par immersion, le mot baptisé veut dire immerger. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Vous savez, moi ça m'encourage tellement parce que on voit que Dieu reçoit toute la gloire dans l'évangélisation. Parce que lui a pris le messager et le destinataire et c'est lui qui souverainement les place ensemble. Moi souvent je me suis posé la question, c'est incroyable que Dieu a dû me prendre jusqu'à New Delhi pour croiser cet homme hollandais. Je pense que ce sont les trois clés d'une évangélisation efficace. Il ne faut pas être théologien. Alors de prendre des cours d'évangélisation, c'est très bien, ça, je suis vraiment d'accord. Mais tout ce qu'il faut, c'est quoi? Un verset, 5 minutes et un peu de courage. Si Dieu a préparé les cœurs d'avance, Dieu peut vous utiliser. Il peut tous nous utiliser, ici même à Toulouse. Amen.